Merci Florine pour ce que tu nous as apporté concernant la persécution. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche de loin, puisqu'on est au courant par les différentes associations comme Portes Ouvertes. Nous à Dizon, on a une fois par mois, chaque culte une fois par mois, pendant le culte, on a des nouvelles qui nous sont données par un frère qui est antenne avec Portes Ouvertes et qui nous ramène les nouvelles de l'église persécutée. Alors, le texte que tu as choisi, du psaume 91, va bien avec la question de la persécution, puisque c'est ce texte qui nous appelle à nous réfugier en Christ, à nous réfugier en Dieu. Mais j'avais cette pensée par rapport à la persécution, puisqu'on en parlait ce matin. Quand on est persécuté, on est heureux. C'est Jésus qui le dit dans les Béatitudes, dans Matthieu au chapitre 5. Jésus monte sur la montagne et enseigne ses disciples, enseigne la foule. Et puis quand il enseigne, il dit, voilà, heureux. Heureux ceux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et puis Jésus termine ses paroles en disant, heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'il y a une promesse qui s'attache à la persécution, c'est que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement du mal de vous. Et il y a une autre promesse que Jésus donne, c'est que notre récompense sera grande dans les cieux. Et il nous appelle, il nous invite, Jésus, dans la persécution, à nous réjouir et à être dans l'allégresse. Alors c'est facile à dire, la persécution, c'est quelque chose qui nous est un peu lointain, et malgré que ça nous soit familier, parce que on entend régulièrement des nouvelles de frères et sœurs qui sont persécutés. Mais si moi je viens à être persécuté, comment je vais réagir? Comment je vais être ferme dans ma foi, demeurer ferme dans la grâce que Dieu m'a accordée? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais en même temps, je me dis que nous avons, nous, ici, dans notre pays, cette grâce qui nous est donnée de Dieu, de pouvoir vivre notre foi librement, et d'ailleurs tu l'as prié, c'est une grâce qui nous est donnée. Et cette grâce dans laquelle nous sommes, nous sommes invités à en jouir. En jouir pour manifester, pour vivre notre foi, pour partager notre foi autour de nous, pour témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, par nos actes, par nos paroles, au travail, parmi nos amis, non chrétiens bien sûr, notre famille. Moi j'ai une famille qui n'est pas chrétienne, donc je fais comme je peux pour témoigner de l'amour de Jésus à mes frères, à mes parents, à toute ma famille. Et puis, je crois que nous vivons aussi ces temps dans lesquels Dieu nous demande à nous préparer à la persécution. Je crois qu'il faut s'armer de cette pensée, comme tu nous l'as rappelé, Florine, ce matin, de cette pensée de souffrir pour Jésus, de souffrir à cause du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui ne plaît pas dans le monde des ténèbres, qui est combattu par la horde des démons et par Satan lui-même. Donc, si ce nom est combattu, forcément, ceux qui portent cette bannière de l'amour de Jésus vont être combattus par le diable et les démons, par l'esprit du monde. Et nous sommes appelés vraiment à nous équiper le jour où la persécution viendra, pour vraiment demeurer ferme. Et ceci dit, je crois que la persécution n'est pas si loin, ouverte n'est pas si loin que ça, hein, dans notre pays. Hein. D'ailleurs, les témoignages des frères et sœurs qui sont persécutés, les témoignages des responsables de Portes Ouvertes, hein, parce qu'on travaille avec Portes Ouvertes, disent que c'est à nos portes, ici, dans notre pays démocratique. Voilà. Et ceci dit, en plus de la persécution, il y a cette épreuve de la foi qui nous est proposée par la parole de Dieu. Je crois que quand on devient chrétien, quand on est appelé par le Seigneur, eh bien, il y a un moment donné dans notre vie où nous allons passer une épreuve. Cette épreuve, on l'appelle l'épreuve de la foi, qui va révéler si vraiment cette foi est bien enracinée en nous, si cette foi elle est bien ancrée en nous. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je dirais, on n'échappe pas. Si on échappe à la persécution dans notre pays, on ne va pas échapper à l'épreuve de la foi. Alors, cette épreuve de la foi va se manifester de toutes sortes de manières, de circonstances dans la vie, ou par la relation avec l'un ou l'autre qui commence à se ternir, par le travail qui est peut-être plus difficile, ou l'ambiance du travail, ou même des souffrances physiques. Hein. Il y a de l'épreuve de la foi est là. Et le Seigneur, là aussi, nous donne des promesses. Le Seigneur, là aussi, nous équipe pour que nous puissions, avec son aide, je dirais, traverser ces épreuves de la foi. Alors, moi, je ne souffre pas pour le moment physiquement. Ça, ce n'est pas pour moi une épreuve de la foi, mais il y a d'autres épreuves qui me sont proposées, dans lesquelles ce n'est pas toujours évident, et dans lesquelles cette épreuve de la foi nous conduit, non pas à douter de Dieu, bien qu'il y a peut-être des temps où on va douter, hein, un temps où on va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ?» Hein, moi, je préfère la bénédiction à l'épreuve. Mais, cette épreuve de la foi, elle va nous aider à nous rapprocher de Dieu. Elle va nous aider à être plus intime avec lui. Celui qui se confie dans le Seigneur toujours plus chaque jour va vraiment découvrir quelque part le cœur de Dieu. Hein, va aller de plus en plus dans cette proximité avec le Seigneur. Alors, c'est vrai, il y a peut-être un temps de doute, hein, on le lit dans le livre de Job, Job qui était un homme droit, qui était un homme intègre, et qui a subi une épreuve qui vient parce que Satan, pose la question à Dieu mais en lui disant « Regarde ton serviteur, il t'aime parce que tu le bénis. » Et finalement, c'est vrai que quand quelqu'un nous fait du bien, on a plus facile à l'aimer, on a plus facile à être en accord avec lui et puis à l'apprécier. Mais c'est ce que Satan dit à Dieu, hein, mais si tu lui enlèves toutes ses bénédictions et toutes ses richesses, tu verras qu'il va te renier. Et en fait, Dieu dit à Satan, vas-y, enlève-lui tout. Et Job ne pêche pas. Mais Job doute par moment. Mais Job, à un moment donné, au chapitre 19, et ça, je suis en train de le lire en ce moment, et j'aime beaucoup Job qui doute, Job qui pleure, Job qui souffre, va à un moment donné dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je crois que dans l'épreuve de la foi, à un moment donné, je pense que ce qui va ressortir de cette foi qui nous a été accordée, de cet amour qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné, à un moment donné, nous allons pouvoir, je le crois, dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il y a des promesses qui s'attachent à mon appel. » Et c'est vrai que le Seigneur... au-delà de l'épreuve, au-delà de la persécution, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nos péchés ont été effacés. Nous sommes devenus héritiers en lui, en Jésus-Christ. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et ça, ce sont toutes des promesses, ce sont toutes des réalités spirituelle dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui a cru. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Même si nous souffrons, même si nous sommes outragés, comme dit Jésus dans Matthieu, même si on dit faussement du mal de nous, même si nous allons jusqu'à la mort, eh bien, nous sommes bénis quand même de toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions, elles ne sont pas matérielles, mais elles sont spirituelles. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme était déclaré juste, alors il s'attachait à lui, il y avait une bénédiction qui devait l'accompagner. Et cette bénédiction, c'était une bénédiction matérielle. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons ce que Jésus-Christ a fait pour nos péchés, lorsque nous nous humilions devant lui à cause de nos péchés, lorsque nous lui confions notre vie, eh bien, il y a aussi cette bénédiction, c'est Éphésiens 1 que je viens de citer, cette bénédiction qui s'attache à nous, qui s'attache à notre vie, qui s'attache à notre cœur. Cette bénédiction, c'est une bénédiction spirituelle. Voilà. Et ça, c'est une belle espérance pour nous. Nous avons cette bénédiction qui nous est donnée, cette position en Christ que nous avons dans le ciel. Même si nous marchons sur la terre, dans la boue, même si c'est difficile pour nous, même si nous luttons, et bien notre tête, nos pensées, notre cœur, lui, n'est pas dans la boue. Il n'est pas à traîner, dans des mauvaises choses, ou dans des choses difficiles, des circonstances difficiles. Notre cœur, lui, il est attaché au Seigneur. Notre cœur, il est en haut. Notre cœur, il est attaché aux choses d'en haut. Et c'est d'ailleurs Paul qui le dit dans Colossiens, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc nous sommes attachés aux choses qui sont en haut. Même si nous sommes persécutés, même si nous vivons l'épreuve de la foi, même si c'est difficile pour nous, même si on est acculé, on est, à la dernière limite, retranché dans nos limites, je dirais, eh bien, notre cœur est attaché à Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais dire aussi que nous avons une dette envers le Seigneur. Et cette dette, c'est de l'aimer. Cette dette, c'est de vraiment aimer notre Seigneur, aimer notre prochain. Alors j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 21. Voilà, on va lire un petit peu. Alors, chapitre 18. Voilà. Matthieu, chapitre 18, excusez-moi. Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est là. Jésus va donner cette parabole, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » ému de compassion, le maître de ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Le maître de ce serviteur, excusez-moi, je suis perdu, se jetant à terre, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur, voilà, j'y suis, le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et les tréanglait en disant « Paie ce que tu me dois » et son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Voilà, jusqu'ici. Donc, tout ça pour souligner, ce texte-là, pour souligner que nous avions une dette colossale à l'égard de Dieu. Et cette dette, c'est la dette du péché, bien sûr. Et d'ailleurs, en lisant la suite de la parabole, il n'est pas très cool, ce serviteur, parce qu'il va revoir un autre serviteur, et puis lui, on lui a remis une dette incroyable, et puis on va demander à l'un de ses compagnons de lui rembourser une toute petite dette. Et d'ailleurs, quand le roi apprend cela, il le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et il est dit que si nous devions payer cette dette, si on la compare dans le texte, ça ne suffirait pas de toute notre vie pour payer la dette de notre péché. Donc le Seigneur nous a remis de cette dette qu'il nous était impossible de régler devant lui, et que cette dette d'ailleurs qui nous envoyait en enfer. Hein ? Nous envoyait en enfer et subissant le châtiment éternel. Mais, comme je le disais, si cette dette du péché nous a été remise, il nous reste encore une dette, et cette dette dans laquelle nous sommes encore redevables. Cette dette, c'est celle d'aimer notre Dieu. Cette dette, c'est celle d'aimer notre prochain. Et d'ailleurs, c'est Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 8, « Ne devez rien à personne. » Voilà. En parlant des dettes dans le monde, en parlant des autorités, de nos impôts que nous devons, eh bien, que nous puissions témoigner, un bon témoignage en réglant nos dettes, en payant nos impôts. Mais, voilà, on ne doit rien à personne. Et il n'y a qu'une seule chose que nous devons, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà ce que Paul demande aux Romains. Donc, notre dette du péché est effacée. Et nous reste une dette, cette dette que nous devrons quelque part payer durant toute notre vie, c'est de nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc ça, c'est une première chose. Notre dette du péché a été remise et nous sommes donc appelés, invités par le Seigneur à l'aimer, bien sûr, et à aimer notre prochain. Et la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous ce matin et qui est aussi quelque part qui implique qui est une implication de notre foi, du fait que nous sommes enfants de Dieu, du fait que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, c'est dans Éphésiens, cette fois-ci, au chapitre 4, on parcourt un petit peu la parole. Éphésiens au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà. Donc, le Seigneur nous a remis notre dette, mais le Seigneur nous appelle aussi à aimer et à marcher d'une manière digne de cet amour que nous avons reçu de lui. Il nous appelle à marcher avec lui. Et marcher dans ce contexte-là, dans le texte d'Éphésiens, c'est cette idée d'un style de vie. D'un style de vie qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Hein. Dans le psaume 1, par exemple, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas ». Alors là, on ne marche pas selon le conseil des méchants. Et puis dans Genèse 5, au verset 24, où on connaît tous Enoch qui marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, marcher avec Dieu, c'est mener une vie conforme aux exigences de Dieu. Et puis pour marcher avec Dieu, il faut observer les commandements de Dieu. Dans Deutéronome, au chapitre 8, verset 6, hein, le commandement que nous connaissons, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. C'est vrai, frères et sœurs, nous pouvons marcher de deux manières. Soit nous marchons tout comme Enoch avec Dieu, soit nous n'avons pas compris ce qu'est la marche avec Dieu et nous marchons dans la contrainte de la loi. Mais si nous marchons dans la contrainte de la loi, ça va devenir un peu difficile pour nous. Parce que la loi va nous révéler que nous sommes incapables de l'observer, que nous sommes incapables de la mettre en pratique. La loi, en fait, est là pour nous conduire à Christ. C'est ce que nous dit Paul hein, dans l'Épître aux Galates. Donc, marcher avec Dieu, c'est être en Christ. Nous avons les bénédictions spirituelles qui nous ont été accordées. Nous demeurons en Christ. Et marcher en lui, demeurer en Christ, c'est bien sûr marcher par l'Esprit. Voilà. Si nous sommes riches en Christ, frères et sœurs, nous sommes aussi conduits à le manifester par notre amour pour lui, mais aussi par une conduite qui va confirmer, qui va déclarer que nous sommes en Christ, que nous lui appartenons, que nous l'aimons. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, « C'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Donc il y a ces deux choses qui sont là pour le chrétien, pour notre vie. C'est cet amour que nous avons pour Dieu, que nous avons pour notre prochain, et cette marche avec Dieu. Cette marche qui est digne, je dirais, d'une manière digne de son appel. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela devient possible parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Paul n'ordonne pas, n'exige pas de marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais il le fait avec tendresse, il le fait avec douceur. Cette vie qui va refléter les bénédictions que Dieu nous a données. Paul aussi, dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Corinthiens, va exhorter les frères. Je vous exhorte dans Romains au chapitre 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, si c'est un impératif, c'est aussi une exhortation. C'est un choix qu'on doit faire dans notre vie de chrétien. Et ce choix, nous le faisons parce que nous avons compris l'amour de Dieu pour nous. Parce que nous avons ce désir de marcher pour lui, de le servir, de vraiment vivre à la lumière de sa parole. Dans Romains au chapitre 16, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales. Éloignez-vous d'eux. Voilà. Paul exhorte. Il n'exige pas. Nous sommes vraiment exhortés, nous aussi, à vivre dans l'humilité. Nous sommes exhortés à vivre par la douceur, à vivre dans la patience et à nous supporter les uns les autres, avec amour. Ça, c'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est une vie dans laquelle nous sommes confrontés les uns avec les autres. Il y a peut-être parfois des tensions, peut-être des incompréhensions. Et parce que nous voulons marcher d'une manière digne de Dieu, on va apprendre à se revêtir de l'humilité, on va apprendre à se revêtir de la patience, on va apprendre à se revêtir de cette douceur de Christ et à se supporter les uns les autres avec amour. Et ce qui va faire surgir, le fait qu'on se supporte les uns les autres, c'est cette unité qui va surgir parce qu'on se supporte. Et cette unité, elle va pouvoir se vivre par le lien de la paix. C'est ce que Paul dit dans l'Église. Alors ça ne veut pas dire que je vais être toujours d'accord avec l'un ou avec l'autre. Mais ça veut dire que je vais travailler dans la paix avec l'autre. Et c'est ça l'unité de l'esprit. C'est être en paix avec l'autre. C'est dire, tu es à ce stade-là, moi j'en suis peut-être un peu plus loin ou un peu moins loin, mais je respecte là où tu es. Et je veux marcher avec toi. Là où tu en es, je veux que nous marchions ensemble. Voilà, frères et sœurs, cette deuxième exhortation de la parole qui nous est donnée. Donc, la première, c'est vraiment se réjouir, c'est jouir de cet amour que Dieu nous a donné, c'est vraiment en bénéficier. Et puis, la deuxième exhortation que je peux vous donner, c'est de marcher tous ensemble, dans un même amour, dans une même unité, devant Dieu, avec Dieu, les uns avec les autres, dans l'amour les uns pour les autres. Voilà, je vais arrêter là, il y a encore d'autres choses à dire, mais j'ai improvisé parce que je trouvais que le sujet de la persécution était intéressant et que ça nous amenait vraiment à prendre conscience de ce que Dieu opère en nous, en chacun de nous, et de ce que Dieu accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous aimons ta parole, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui éclaire nos yeux, cette parole qui réjouit nos cœurs, cette parole qui nous rappelle toutes tes promesses, toutes ces bénédictions dont nous bénéficions aujourd'hui parce que nous avons cru en toi. Et même si nous souffrons, même si nous sommes persécutés, même si ce n'est pas évident dans notre vie de tous les jours, nous croyons, Seigneur, que ton amour repose dans notre cœur. Nous croyons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que rien ne pourra nous arracher ton amour, Seigneur. Rien ne pourra nous arracher de toi. Et ainsi parce que, Seigneur, tu nous aimes, nous voulons marcher dignement pour toi, selon ta parole, selon toutes ces exhortations qui nous sont adressées dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes faibles, nous sommes petits, et nous voulons vraiment être saints de ta force, afin d'être vraiment, de refléter ce royaume dans lequel nous sommes, Seigneur. Nous sommes citoyens des cieux, et nous voulons marcher en conséquence. Bénis l'église de Darnay, bénis mes frères et sœurs, que vraiment cette église puisse briller dans cette région par le témoignage de son amour les uns pour les autres, par le témoignage, Seigneur, de ta lumière, de ta vérité. Et que tu puisses aider cette Église à rester unie par le lien de la paix. Dans le nom de Jésus. Amen.